VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir, bienvenue à l'édition de ce mercredi 16 septembre 2015. À la une ce soir.
Que se passe-t-il à Ouagadougou? Une confusion régnait en milieu d'après-midi concernant le sort des dirigeants de la transition face au régiment de sécurité présidentielle, l'ancienne garde de Blaise Compaoré.
Ça vole dans tous les sens. Certains parlent d'arrestation, de séquestration.
On fera le point avec notre correspondant sur place.
Burundi, arrestation de plus d'une centaine de jeunes dans le centre du pays.
République démocratique du Congo, 7 responsables politiques ont osé prendre position contre le président Kabila et aujourd'hui, ils sont tous exclus de la majorité présidentielle.
Lutte contre Boko Haram au Cameroun, un rapport d'Amnesty International relève la cruauté de la secte nigériane, mais aussi les violations des droits humains du côté de l'armée.
Et crise des migrants en Europe, la France menace d'imposer et des contrôles frontaliers.
Nous aurons également nos segments sur l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Situation confuse au Burkina Faso où l'on se pose des questions sur le sort du président de la transition, Michel Kafando, et le premier ministre Isaac Zida, qui aurait été arrêté par des éléments de la sécurité durant le Conseil des ministres de ce mercredi.
Alors, Zoumana Wonogo, vous étiez sur place à ce Conseil des ministres. Dites-nous, que s'est-il passé exactement? Qu'est-ce que l'on sait et qu'est-ce qui est vérifié jusqu'à cette minute?
Alors, où je vous parle, ce qui est vérifié, c'est que le premier ministre et le président du Faso sont, peut-on le dire, portés disparus. Mais maintenant, le ministre, j'ai essayé même d'appeler un ministre, leur téléphone sonne. J'ai essayé d'appeler le téléphone du l'aide de camp du premier ministre, là, ça ne passe pas du tout. Et actuellement, il y a un mouvement déjà de la société civile vers le palais présidentiel. Les jeunes disent qu'ils vont aller encercler le palais présidentiel. Donc, la confusion s'ajoute à la confusion encore.
Donc, on ne sait pas où se trouvent Michel Kafando et Isaac Zida.
Oui, on ne le sait pas. Mais les ministres, visiblement, ont les mains un peu plus libres. Parce que leur téléphone sonne, même s'ils ne décrochent pas. Voilà. Les deux principales têtes, là, on n'en sait absolument rien.
Il y a des informations qui circulent concernant la présence de soldats à la radio et à la télévision. Qu'en savez-vous, Zoumana?
Oui, mais ça, c'est habituel. La presse d'État, la radio et la télévision nationale sont gardées par les éléments du régiment de sécurité présidentielle. Ça, c'est dans l'ordre normal des choses.
Mais il n'y a pas de renforcement. Il n'y a pas de renforcement de cette présence.
En particulier de soldats en ville. Non, pour le moment, non.
Et quelle est la situation en général? Quelle est la situation en général à Ouagadougou?
Ah oui, à ce niveau, il faut avouer que c'est la ruée vers les stations d'essence, les stations de service, les magasins, les guichets de banque. C'est l'affolement, les gens préparent certainement des lendemains qui ne vont pas enchanter. Donc c'est un peu la folie, hein. La ville se vide de ses habitants, chacun court pour arriver très rapidement chez lui. En attendant, en créant le pire, quoi.
Le président du Conseil.
Il vient tout de suite là, de confirmer qu'au niveau de l'ambassade des États-Unis, qui est à une centaine de mètres du palais présidentiel, je crois que les soldats américains sont aussi mobilisés déjà pour entourer l'ambassade. Et au niveau de l'ambassade de France aussi, il y a un mouvement de soldats français.
Voilà. Alors, Zoumana, le Conseil national de transition n'a pas fait de déclaration officielle jusqu'à présent.
Le président, jusqu'à présent, on attend, il nous a fait parvenir un petit mot par son conseiller en communication qui a redit la condamnation de la séquestration des membres du gouvernement par le Conseil national de la transition. Mais en attendant, lui-même, il dit qu'il suit pas à pas les différents événements. Donc, il aura tous les éléments d'appréciation, il va faire sa déclaration.
Merci, Zoumana.
Voilà, donc, on attend.
En direct de Ouagadougou, Zoumana Wonogo, notre correspondant sur place.
Au Burundi, plus de 100 jeunes ont été arrêtés hier et aujourd'hui à Gitega, dans le centre du pays. Les autorités invoquent la sécurité nationale. On fait le point avec Claire Morin-Gibourg.
Les arrestations ont été confirmées par le gouverneur de la province, Venant Manirambona. La centaine de jeunes véhiculés en minibus a déclaré se rendre dans le sud pour chercher du travail. Information que les autorités voulaient vérifier. Elles craignent que ces jeunes gens rejoignent des mouvements rebelles en lutte contre le gouvernement actuel. Selon le correspondant de VOA Afrique, les jeunes arrêtés et emprisonnés viennent majoritairement de la province de Karoussi. Les enquêtes sont en cours selon le gouverneur. Selon l'agence AP, aucun groupe rebelle n'a été identifié, mais les forces de sécurité ont récemment fait état d'attaques rebelles sur des postes militaires. Depuis quelques mois, la violence est de retour au Burundi, et plus particulièrement dans la capitale Bujumbura, avec de multiples attaques armées à l'aide de fusils, de grenades et de roquettes.
En République démocratique du Congo, sept cadres de la majorité présidentielle qui avaient écrit le 14 septembre dernier au président Joseph Kabila pour lui demander notamment de garantir le respect absolu de la Constitution ont été exclus de la famille présidentielle. Il s'agit de Olivier Kamitatou, actuel ministre du Plan, Charles Mwando Nsimba, premier vice-président de l'Assemblée nationale, Yves Mobando, José Endondo, Danny Banza Maloba, Antoine Gabriel Kyungu et Christophe Lutundula, tous présidents des partis politiques membres de la majorité au pouvoir. La décision de leur mise à l'écart a été prise ce mercredi à Kinshasa.
Condamnation pour incitation à la haine tribale en République démocratique du Congo. L'ancien député de la majorité, Vano Kiboko, dignitaire tribal du Katanga, écope de 3 ans de prison. Une condamnation politique, estime un membre de sa famille, cité par l'AFP. Il faut dire que M. Kiboko est réputé être proche du gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, possible candidat à la présidentielle de 2016.
Le Nigeria envisage d'offrir l'amnistie à des islamistes de Boko Haram emprisonnés en échange de la libération des lycéennes enlevées à Chibok, Anastasie Tudiech.
Au dernier jour de sa visite en France, le président Muhammadu Buhari a dit que si les responsables de Boko Haram acceptent de rendre les filles de Chibok, ils pourraient accorder l'amnistie à leurs prisonniers. Cependant, très prudent, il a précisé qu'il faudrait d'abord être sûr qu'elles sont en bonne santé et savoir le nombre exact de filles qui peuvent être récupérées avant d'envisager toute libération de prisonniers. Le 14 avril 2014, Boko Haram avait enlevé 276 adolescentes au lycée de Chibok dans l'état de Borno. Le sort de la plupart d'entre elles est resté incertain. Après ce kidnapping qui avait soulevé un tollé mondial, Aboubakar Shekau, le leader de Boko Haram, avait annoncé dans une vidéo que les filles ont été converties à l'islam et mariées à des combattants. Des défenseurs des droits de l'homme affirment qu'elles sont parfois vendues en esclavage à des militants, voire utilisées dans des attentats suicides.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Crise migratoire en Europe. 20 policiers hongrois ont été blessés ce mercredi dans des heurts avec des migrants à la frontière serbe. Le point avec Nathalie Barge.
Le gouvernement français pourrait, le cas échéant, rétablir temporairement les contrôles aux frontières afin de faire face à la crise migratoire sur le vieux continent. Le Premier ministre Manuel Valls a rappelé aujourd'hui devant les députés que les règles de l'espace Schengen permettent une telle mesure et que Paris n'hésitera pas à l'adopter dans les prochains jours ou prochaines semaines si c'est nécessaire. Monsieur Valls a par ailleurs plaidé pour une meilleure coopération européenne avec la répartition des demandeurs d'asile. La France, rappelle l'AFP, s'est engagée à ouvrir ses portes à 24 000 réfugiés sur 2 ans et comme nous l'avons dit, 20 policiers hongrois ont été blessés ce mercredi dans des heurts avec des migrants à la frontière serbe. Au Yémen.
Oui, au Yémen, un porte-parole du gouvernement affirme que le cabinet ministériel est de retour au pays après des mois passés en exil auto-imposé en Arabie Saoudite. Les ministres vont travailler hors de la ville portuaire d'Aden, dans le sud du Yémen, avec pour objectif le rétablissement de la stabilité dans le pays, a ajouté le porte-parole. On ignore pour le moment si le président Abed Rabo Mansour Hadi se prépare à revenir. Il a fui de Yémen plus tôt cette année au moment où les rebelles chiites houthis retenus par l'Iran s'avançaient de sa résidence à Aden. Les rebelles contrôlent la capitale Sanaa et d'autres territoires, mais une coalition arabe sunnite tente de les déloger. Les affrontements au Yémen ont fait plus de 4500 morts.
Politique américaine, ce soir, les candidats à l'investiture du Parti républicain se retrouvent dans un débat télévisé où le milliardaire Donald Trump devrait être la cible de 10 autres prétendants à l'investiture du parti pour la présidentielle de l'an prochain. Deux heures avant ce débat, qui se tiendra dans la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan en Californie, quatre autres candidats moins connus prendront part à un autre débat. Un nouveau sondage révèle que la moitié de l'électorat républicain préfère Donald Trump et Ben Carson, de novice, aux autres candidats dans la course, y compris des ténors présumés comme Jeb Bush. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Camille Grosdidier.
Pas d'autre dévaluation pour le Naira, la monnaie nigériane. C'est ce qu'a décrété le président Muhammadu Buhari ce mercredi, alors même que la Banque centrale du Nigeria peine à stabiliser la monnaie qui se ressent toujours de la chute brutale des prix du pétrole, principale source de devises du gouvernement. Au cours des 12 derniers mois, le Naira a perdu 15% de sa valeur face au dollar américain. Le gouvernement a d'ailleurs procédé à une première dévaluation officielle en novembre 2014, qui a été suivie d'un nouvel accès de faiblesse de la monnaie en février. Officiellement, le Naira s'est changé à 197 le dollar en juillet, mais voilà, il fallait sur les marchés parallèles offrir jusqu'à 242 Naira pour se procurer chaque dollar. Le gouvernement maintient d'ailleurs des contrôles étroits sur l'échange. Et puis, le ministre sénégalais de l'économie, des finances et du plan, Amadou Ba, et la directrice du USAID, Susan Fine, ont signé mardi le prolongement des accords de financement aux 10 ministères. Ces nouveaux accords recouvrent la période 2015-2020 et sont chiffrés à presque 233 milliards de francs CFA.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Camille.
Et nous passons tout de suite à notre page sport avec Nicolas Pino. Salut Nico.
Bonsoir cher Ruben.
Alors, première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. C'était ce mardi.
Et oui, ce mardi et ce mercredi. Alors ce soir, évidemment, le choc entre l'AS Rome et le FC Barcelone, tenant du titre. C'est l'affiche des matchs de cette première journée où Chelsea, en pleine crise, a l'occasion de se rassurer en recevant le Maccabi Tel Aviv. À suivre aussi ce soir, les Allemands de Leverkusen qui accueillent le Bate Borisov. Arsenal en déplacement au Dynamo Zagreb. Et puis les Allemands du Bayern de Munich qui se déplacent en Grèce chez l'Olympiakos. À suivre également le Dynamo de Kiev contre le FC Porto, la Gantoise qui accueille Lyon et enfin le FC Valence contre le Zénith Saint-Pétersbourg.
Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ont bien démarré.
Et oui, le Paris Saint-Germain et sa nouvelle recrue, l'Argentin Angel Di Maria, buteur, se sont imposés 2-0 au Parc des Princes devant le club suédois de Malmö. On rappelle, pour tous ceux qui suivent le football, que Malmö, c'est le club formateur du grand Zlatan Ibrahimovic, le suédois du Paris Saint-Germain. Et de l'autre côté, évidemment, des Pyrénées, carton du Real de Madrid qui domine le Shakhtar Donetsk 4-0. Avec, après le quintuplé du week-end, le triplé de Cristiano Ronaldo, notamment deux pénaltys pour le Portugais. Dans le groupe B, les Allemands de Wolfsburg qui battent à domicile le CSKA Moscou, 1-0. Et puis la défaite de Manchester United, 2-1 sur la pelouse du PSV Eindhoven. Dans le groupe C, un stade parmi les plus bruyants d'Europe, un public évidemment chaud et deux équipes au jeu rugueux et combatif. La rencontre a été intéressante entre le Galatasaray et l'Atlético Madrid à Istanbul. Eh bien, finalement, ce sont les Espagnols qui se sont imposés 2-0. On parle également du Benfica de Lisbonne qui a battu le petit poucet de cette édition, le club kazakh d'Astana, 2-0. Et puis dans le groupe D, le choc, Manchester City Juventus de Turin a tourné l'avantage au club transalpin qui l'a emporté 2-1. Enfin, belle victoire du FC Séville, 3-0 contre les Allemands de Mosheen Glanbar.
Alors je veux en avoir le cœur net, Nicolas Pinot. Le match PSV Eindhoven et Manchester United, qui a gagné?
C'est bien le PSV Eindhoven, 2-1.
Ok, voilà. Merci Nicolas Pinot.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guériac, Chérubin Gabi Dorsil en votre compagnie, place au dossier du jour, première escale dans ce magazine, Bujumbura.
La principale coalition de l'opposition appelle la communauté internationale à agir vite pour épargner à ce pays un scénario de débordement violent. Maître François Nyamuya, vice-président du Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, la restauration de l'état de droit, joint à Bruxelles, propose des sanctions ciblées contre le président Pierre Nkurunziza et son entourage.
Et la communauté internationale se rend compte de ce qui se passe réellement au Burundi sur le terrain. Elle en est témoin. Donc, je suis presque certain que la communauté internationale va suivre son propre raisonnement, sa propre logique, qui est celle de condamner des violations aussi flagrantes que celles qui se passent au Burundi.
Quelles sont les sanctions spécifiques qui pourraient faire fléchir finalement le président Nkurunziza?
Un certain nombre de pays ont déjà pris des sanctions qui sont assez concrètes, des restrictions qui concernent la coopération. Mais ce que nous demandons aujourd'hui, ce sont des sanctions ciblées qui touchent des personnes, qui touchent des individus, notamment le personnel qui est au service du président, toutes ces personnalités et tous ces responsables qui sont responsables des exactions qui se commettent. Et nous espérons que ces sanctions ciblées peuvent être assez dissuasives.
Il y a eu plusieurs actions de prévention, mais le président Nkurunziza a continué sur sa logique.
C'est une question de temps. En fait, le président Nkurunziza s'imagine qu'en fonçant et en se moquant de la communauté internationale, il peut parvenir à ses fins. Comme c'est quelqu'un qui ne suit pas les règles, ni de son propre pays, ni de la communauté internationale, il s'imagine que tout ce qu'il fait peut passer. Mais ça ne va pas passer, ça ne prend que plus de temps, mais il ne pourra pas se moquer davantage. Donc, si la communauté internationale maintient sa pression, cela va avoir de l'effet sur le président Nkurunziza.
Le chargé de la communication du SINARED n'a pas exclu le recours à la force militaire pour déloger le régime Nkurunziza si celui-ci refuse de partir. Pensez-vous que c'est l'ultime solution pour renouer avec le respect de la Constitution et de l'accord d'Arusha?
Ce n'est pas notre option. Notre option est une option non-violente. C'est une option qui s'inscrit dans la légalité internationale. C'est pour ça que nous demandons et que nous continuons à faire pression. Ce dont nous sommes convaincus, c'est que si la communauté internationale ne s'investit pas dès maintenant pour contraindre Nkurunziza à retrouver le chemin du respect de l'accord d'Arusha, cela n'exclut pas que des débordements violents puissent avoir lieu parce que les gens sont désespérés et qu'ils n'ont pas d'autre choix, surtout qu'il est question d'une survie. Les gens sont exécutés de manière continue. Dans ces conditions, vous comprenez que les gens peuvent être tentés par la violence.
Maître François Nyamuya, joint à Bruxelles par Eric Manirakiza.
Massacre, enlèvement, pillage, le rapport d'Amnesty International sur la lutte contre Boko Haram au Cameroun est clair. Le bilan, sanglant, ce sont des crimes de guerre qui ont cours en ce moment dans le nord du Cameroun. Mais le rapport souligne aussi la responsabilité des autorités camerounaises, dont la campagne de lutte antiterroriste se fait parfois en violation des droits humains et entraîne de lourdes pertes parmi les civils. Anastasie Tudiesch a demandé des précisions à Steve Cockburn d'Amnesty International en Afrique de l'Ouest et Afrique du Centre.
Nous avons, depuis quelques années, nous travaillons sur la question de Boko Haram au Nigeria, où il y a eu des milliers de morts. Mais ce que nous avons vu cette dernière année, qu'il y a eu que Boko Haram a exporté sa violence auprès des voisins du Nigeria, surtout au Cameroun, et ils ont commis des graves crimes de guerre contre la population civile dans cette partie du pays. Et donc, nous avons décidé de faire une recherche dans cette région pour voir un peu la situation des droits humains dans cette région et voir les attaques menées par Boko Haram, mais aussi la réponse des forces de sécurité.
Où opère Boko Haram au Cameroun et de quelle manière? Vous pouvez nous dire ça en quelques mots?
C'est clair que Boko Haram, ils ont commis les crimes de guerre dans le nord du Cameroun. Nous avons documenté plus de 380 civils qui sont morts dans les attaques de Boko Haram. Donc, peut-être entre octobre 2014 et mars 2015.
Dans quelle
Boko
région?
Haram a attaqué dans la région de l'extrême nord du Cameroun, surtout dans les villes et les villages à la frontière avec le Nigeria. Donc, ce que se passe, c'est dans cette période-là, Boko Haram a attaqué les villages à la frontière. Ils ont attaqué les civils, ils ont brûlé les maisons, ils ont abattu des centaines de personnes. Et plus récemment, nous avons vu un changement de tactique depuis juillet, où ils ont lancé une série d'attentats sur le site, dans les villes du Nord, même en utilisant les filles de 13 ans pour lancer ces attaques.
Dans le rapport d'Amnesty, les civils sont donc victimes des exactions de Boko Haram, mais aussi des autorités camerounaises, dans la lutte contre Boko Haram.
Tout à fait, donc. En réponse aux attaques, le Cameroun a déployé des milliers de forces de sécurité pour essayer de protéger la population. Mais en le faisant, ils ont aussi commis les graves violations des droits humains, aussi qui n'ont pas été reconnues par le gouvernement ou encore moins fait l'objet de sérieuses investigations. Les forces d'ordre ont détenu plus de 1000 personnes dans cette région, très souvent sans preuve ou sans inculpation. Et très souvent dans les opérations de ratissage où ils arrêtent des dizaines et parfois voire des centaines de personnes en même temps. Et ces personnes, après l'arrestation, sont détenues dans des conditions déplorables.
Steve Cockburn d'Amnesty International, Afrique de l'Ouest et Centrale.
Tatiana Mosso avec vous depuis la capitale américaine dans Washington Forum ce jeudi 17 septembre. Un focus sur les violations des droits de l'homme qui seraient commises par l'armée camerounaise dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Amnesty International dénonce les abus des soldats camerounais. Comment combattre un ennemi quasi invisible et qui s'infiltre au sein des populations de réfugiés? Partagez vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h TU avec nos invités. Toujours concernant le Cameroun, des membres du réseau Dynamique Citoyenne et un journaliste ont été arrêtés mardi à Yaoundé, la capitale du Cameroun. C'est ce que signalent l'ONG et CCFD Terre Solidaire. Ils ont été interpellés lors d'une conférence réunissant des organisations de la société civile pour le lancement de Tournons la page Cameroun, un mouvement international pro-démocratie dont le CCFD Terre Solidaire est membre. Selon une responsable de l'ONG, Isabelle Namimben, ils n'ont toujours pas été relâchés.
Le réseau Dynamique Citoyenne, qui est un réseau d'acteurs de la société civile, a organisé le lancement de la campagne Tournons la page, donc un atelier sur la gouvernance électorale et l'alternance démocratique au Cameroun. Et lors de cet atelier, les forces de l'ordre sont intervenues pour mettre fin à la réunion et ont arrêté six des leaders de Dynamique Citoyenne qui sont actuellement toujours en détention, donc depuis 24 heures maintenant. Et il vient de leur être signifié qu'ils allaient être en garde à vue administrative de 15 jours renouvelables pour le motif qu'ils n'auraient pas respecté la loi sur les manifestations publiques.
Mais s'ils étaient en réunion privée, ce n'était pas une manifestation publique?
Voilà, donc c'est tout à fait l'argument qui est avancé par le réseau Dynamique Citoyenne, puisque cette réunion était un atelier de travail qui se déroulait dans une salle qu'ils avaient réservée de manière privée. Mais ça n'a pas empêché les forces de l'ordre d'intervenir de manière violente et de disperser l'atelier d'une part et surtout d'arrêter, donc comme je vous le disais, six personnes qui sont toujours en détention. De plus, trois nouvelles arrestations ont eu lieu ce matin, cette fois-ci, au bureau donc, de l'ONG Dynamique Citoyenne. Là, se réunissait la coordination nationale de dynamique citoyenne avec des représentants de tous les territoires camerounais. Et donc, à nouveau, les forces de l'ordre sont intervenues, ont fait sortir tous les membres présents qui étaient à nouveau en réunion associative, et donc qui n'étaient pas en train de manifester sur la voie publique. Et trois autres membres ont été arrêtés et sont toujours en détention.
Le président Paul Biya est au pouvoir depuis une trentaine d'années. Est-ce que ces arrestations reflètent une sorte de fébrilité de la part du pouvoir? Est-ce que c'est motivé par la répression, notamment contre la milice Boko Haram?
Tout à fait. On peut vraiment comprendre ces arrestations en lien avec le thème de l'atelier qui portait sur la gouvernance électorale et sur la question de l'alternance démocratique, qui est une question taboue au Cameroun, puisque, comme vous le disiez, Paul Biya est au pouvoir depuis maintenant 33 ans. Il s'agissait pour Dynamique Citoyenne d'interroger le cadre notamment électoral dans la prévision des élections de 2018. Mais bien sûr, on peut faire le lien avec le contexte actuel extrêmement tendu, puisque le Cameroun subit les attaques de Boko Haram avec des attentats notamment en juillet à l'extrême nord. Et...
Voilà, c'était Isabelle Namin-Ben de l'ONG CCFD Terre Solidaire qui était joint en France. Et puis, cette mise à jour sur ce qui se passe au Burkina Faso, le président du Conseil national de transition, Chérif Sy, condamne avec la dernière énergie la prise d'otage des membres du gouvernement. Il appelle la population à la vigilance.
On termine ce magazine avec la politique américaine. Les candidats à l'investiture du Parti républicain pour la présidentielle de 2016 auront ce soir leur deuxième débat télévisé. Débat qui aura lieu à la bibliothèque Ronald Reagan, près de Los Angeles, en Californie. Idrissa Seloudia.
Ce débat doit être consacré aux questions de politique étrangère et le milliardaire Donald Trump, favori de l'heure, s'attend à être la cible de ses 10 principaux rivaux. On s'attend à des questions sur la lutte contre le groupe État islamique, la politique du président Barack Obama envers la Syrie, l'accord sur le nucléaire iranien conclu récemment par les États-Unis et leurs partenaires internationaux du P5+1. À l'instar des républicains à la Chambre des représentants et au Sénat, aucun des candidats républicains ne s'est prononcé pour cet accord. Il y a aussi la Chine, particulièrement dans le domaine commercial. Il faut dire qu'en politique étrangère, le favori est plutôt vague sur ce qu'il compte faire spécifiquement. Récemment, il s'est fait avoir par un animateur qui lui posait une question sur le patron des gardiens de la révolution iranien, lui occasionnant une grosse confusion entre le nom officiel de ces gardiens et les Kurdes. En tout état de cause, M. Trump aime à dire que l'Amérique se fait battre partout dans le monde, qu'elle manque de fermeté face à ses adversaires et qu'il va restaurer sa grandeur. Il aime à dire, en battant campagne, « Nous aurons tellement de victoires qu'à un moment, ça va vous sortir par les oreilles ». En parlant du mur qu'il veut construire à la frontière sud des États-Unis et faire payer par le Mexique, M. Trump, qui a des positions très à droite sur l'immigration clandestine, a déclaré pas plus tard que lundi à Dallas, une ville du Texas où vit une importante population hispanique.
We have to build a wall.
Nous devons construire ce mur, et un mur, ça marche. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller en Israël et dire « Comment ça marche, votre mur ? Ça marche, les murs ?» Pour ses adversaires, ce genre de déclaration montre que M. Trump ne connaît pas ses dossiers. La candidate démocrate Hillary Clinton, ancienne secrétaire d'État américaine, n'a pas attendu pour ridiculiser les déclarations de M. Trump.
Oh, listen,
oh écoutez, je n'ai pas besoin de vous dire quoi que ce soit. Quand je serai là-bas, c'est-à-dire à la Maison-Blanche, ce sera la paix partout. La prospérité tombera sur vous tous. Nous aurons une nouvelle ère, a déclaré Mme Clinton en résumant les promesses du milliardaire américain. Mais il semble à ce stade que le style de M. Trump l'emporte sur la substance face à un apparent ras-le-bol des électeurs avec les politiciens professionnels.
C'est la fin de cette édition. Georges Léonard Sagnot a dirigé la mise en onde. Au micro, Morgane Diriec et Chérubin Gaby Dorsil.
On remercie Micha Dubinsky également à la console. Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.